Alors justement, pour prolonger cette description et cet aspect vraiment peut-être peut-on dire expérimental de cette expérience éditoriale et aussi cet atlas, hein, puisque c'est une dimension cartographique évidente, on ne peut pas ne pas citer Habib-Warrpour qui traverse vraiment votre ouvrage, ne serait-ce que par rapport au titre. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur le peut dire le voilà la source et les liens avec cet à la fois cet homme-là et cet institut où il y a qui a contribué également dans les années 10 à faire redécouvrir un autre travail de Opicino. Bien. Alors maintenant, pour tout doucement arriver au terme de cette de cet entretien, je voulais profiter de votre expertise sur un tel sujet pour vous demander, puisqu'a lieu jusqu'à la fin du mois de décembre en Bourgogne-Franche-Comté, nouvelle région réunie depuis maintenant une année, avec une première partie en Bourgogne du 21 juin au 30 octobre, une manifestation intitulée Patrimoines écrits, voyages en Bourgogne-Franche-Comté, et la seconde partie qui a lieu depuis septembre jusqu'à décembre, donc dans l'ancienne, enfin toujours et actuelle, mais ancienne Franche-Comté seule, avant la fusion, a lieu une manifestation fort intéressante à l'initiative d'Accolade, une agence du livre, et qui s'intitule donc pour la seconde partie de cette manifestation Descartes, écrire les frontières du réel et de l'imaginaire. Alors j'avais envie justement de contextualiser cet entretien pleinement dans cette manifestation, bien que vous n'ayez pas pu venir pour l'instant, j'ai envie de dire en Franche-Comté. Mais voilà, est-ce que vous pourriez nous conseiller, nous recommander peut-être un autre ouvrage qui illustrerait cette problématique, connue ou moins connue, actuelle ou non? Enfin voilà, je vous laisse.
Alors, il y a énormément de choses. Les cartes sont des objets tout à fait fascinants qui inspirent les artistes. Donc, récemment, j'étais avec Alexandre Lomonnier à Metz, invité par le FRAC de Metz, qui avait organisé cet été, jusqu'à l'automne, une exposition d'œuvres artistiques inspirées par Descartes, et dans lequel notre livre était aussi exposé. Et donc, nous l'avons présenté ou presque de l'exposition. Alors, il y a énormément de choses à citer, mais une chose qui me vient spontanément à l'esprit, alors, c'est pas une chose grand public, mais il s'agit d'un livre publié récemment chez un éditeur scientifique hollandais, chez Brill. Donc, un livre que le livre coûte très cher, mais Alexandre Monnier espère en tirer quelque chose lui-même pour ses collections de livres qui coûtent très peu cher, sont très accessibles. C'est un manuscrit du 15e siècle qui dessine une cartographie de l'Apocalypse. Un manuscrit qui a été étudié, publié donc très récemment, conservé aux États-Unis, mais qui provient d'Allemagne, de Lübeck, et qui présente une série de cartes montrant toutes les guerres de la fin des temps, puisque l'Apocalypse est souvent généralement pensée sous forme de guerres successives, de conflits, y compris de destruction, de tremblements de terre. Et là, on a les cartes de la fin du monde. Donc c'est un manuscrit tout à fait exceptionnel et très 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 fascinant à observer. Et peut-être qu'il y aura une version, enfin d'ici quelques années, une adaptation française de ce travail, publiée par Zone Sensible, qui permettra de l'observer. Mais effectivement, les cartes et la projection de l'imaginaire dans les cartes donnent des œuvres, peut donner des œuvres tout à fait fascinantes, et qui donnent à rêver, puisqu'on peut se projeter, voyager dans les cartes.
Oui, bien sûr, au mois d'avril, je crois.
Voilà, je serai à Besançon pour présenter le livre le 5 avril prochain.
Très bien.
Le mercredi 5 avril à l'université, dans un séminaire d'histoire, mais qui est ouvert au public également, à Besançon.
Très bien. Alors, peut-être une ultime question qu'on pourrait maintenant considérer comme peut-être parallèle un petit peu à notre échange, mais qui me paraissait intéressant de vous poser, puisque dans les recherches préalables à cet entretien, j'ai découvert que vous aviez fondé en 2003 une revue, micro-revue électronique qui s'intitule Oliviana, et vous m'avez répondu que c'était une revue qui s'élaborait à un rythme assez lent. Et alors, bien sûr, j'imagine parce que c'est d'une part parce que vous avez beaucoup d'activités, mais ma question est la suivante, c'était de savoir si pour vous, en tant qu'historien, il était cet outil-là, c'est-à-dire une revue électronique sur la toile, pouvait être un outil complémentaire à vos recherches, à vos publications, et voilà. Et puis en profiter aussi pour vous demander de nous présenter cette revue, donc qui va bientôt voir paraître son 5e opus.
Oui, en fait, lié à un auteur sur lequel je travaille, qui est lui un grand théologien, très peu connu du grand public parce qu'il a été condamné après sa mort, Pierre de Jean-Olivier, qui est un théologien franciscain de la fin du XIIIe siècle, actif en Languedoc. Et comme il y a énormément de travaux à faire autour de lui, j'ai choisi de créer cette petite revue qui permet de publier des petits articles, des documents, des éditions de textes, etc. Alors c'est aussi une chose militante dans le sens où je l'ai fait parce que je suis impliqué dans un projet de revue électronique. Enfin, j'étais impliqué, je suis toujours, une plateforme de revue qui s'appelle revue.org. Et c'était pour illustrer. Et à l'époque, en 2003, c'était pas du tout évident de convaincre les collègues que ça pouvait être sérieux de faire une revue scientifique en ligne. Alors maintenant, c'est une chose tout à fait habituelle. Mmh. Mais il y a 13 ans, c'était pas tout à fait le cas. Et donc, c'était un peu pour donner l'exemple, pour montrer qu'on pouvait faire des choses sérieuses et de qualité. C'est aussi une façon de tester notre logiciel d'édition électronique que j'avais lancé ça. Et donc, on continue à un rythme assez lent parce que c'est aussi une façon de montrer que la bonne recherche se fait parfois avec un rythme lent et on ne doit pas avoir une pression trop forte. Donc, j'essaie de faire des belles choses tranquillement. Et c'est effectivement l'intérêt de pouvoir toucher un public beaucoup plus vaste. Alors, j'ai eu des histoires assez amusantes de gens pas du tout universitaires qui ont vu des choses, et y compris quelqu'un qui avait chez lui un manuscrit franciscain et qui m'a contacté, qui me connaissait par cette revue électronique, et qui m'a contacté pour observer un manuscrit qu'il avait chez lui, qui s'est révélé très intéressant et qu'on a étudié dans un numéro de la revue. Voilà, donc c'est vraiment une chose très importante pour moi de penser que l'historien ne parle pas simplement à ses collègues, mais de parler à un public vaste, et de même, le livre qu'on a fait avec Alexandre est destiné à toucher un public plus vaste que les simples spécialistes d'histoire médiévale. Et c'est pour moi très complémentaire de penser que si on fait des livres, il faut faire des beaux livres, c'est-à-dire imprimés sur des beaux papiers, bien écrits, bien imprimés, avec tout le soin possible. Et les documents, disons, plus scientifiques, peuvent être publiés directement en ligne. Il faut faire les deux à la fois. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est deux manières différentes de toucher du public au-delà des petits cercles universitaires. Parce que si on ne parle que à ses collègues, on ne parle à personne et ça n'a aucun sens.
Très bien. Eh bien, écoutez, Sylvain Piron, je vous remercie d'avoir pris ce temps en début de journée pour cet échange et qui, je l'espère, donnera envie à nos futurs lecteurs, puisque cet ouvrage sera en rayon début 2017 dans notre médiathèque, d'approfondir la découverte de votre travail. Merci beaucoup à vous.
Merci aussi. Bonne journée. Au revoir.